Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on aurait pu vous proposer une sélection de mangas du moment de fantasy, mais c'est un peu réducteur. On aurait pu vous proposer une sélection de mangas de SF. Bon, on l'a déjà fait, et il n'y a pas tant de choses que ça non plus en ce moment. Pourtant, là, il y avait le festival des Utopiales, ça aurait été idéal. On aurait même été dans l'actu, on aurait pu aller à Nantes, on aurait pris le TGV, Cagnard, ça aurait été une aventure incroyable.
La chariote à Chabron.
Tout à fait.
Ouais, bien mais évidemment.
Non, pas du tout. On a décidé de tout mélanger et d'élargir. Voici donc une sélection de mangas de l'imaginaire. Alors, c'est quoi une sélection de mangas de l'imaginaire? C'est un peu tout. Ce qu'on va mettre derrière ce mot, c'est tout ce qui n'est pas réel. Inspiré de faits réels, ce n'est pas de la romance normale, ce n'est pas un manga de sport normal, ce n'est pas une série policière réaliste. Voilà ce qu'on peut mettre derrière l'imaginaire, donc faut imaginer de la fantasy, des super pouvoirs. Voilà.
Même si on n'est pas spécialement d'accord sur l'aspect manga sportif, parce que, excuse-moi, mais pour moi, Kuroko Basket
est un manga imaginaire.
C'est un manga de l'imaginaire. Avec
basket,
des pouvoirs de l'imaginaire.
Mais c'est pas un manga de sport, du coup.
Bah, si, aussi.
Ouais.
Ça tient aussi. Mais
comme Kingdom, quoi.
On va dire que c'est ton seul angle mort, c'est le manga de sport, surtout le manga de sport, peut-être un des styles les plus imaginaires qu'il peut y avoir.
Dans la cinquième de coup, voici donc une sélection de mangas l'imaginaire du moment.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards.
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas de l'imaginaire. Salut Cagnard, salut Julie, est-ce que vous avez bien préparé vos mangas?
Bonjour, bien sûr que non.
Très bien.
Bonjour, bien sûr que oui.
Merci, heureusement que Cagnard est bon élève. On est chacun venu avec deux mangas, donc voilà, vous allez avoir six mangas présentés dans cette émission. On aura un petit peu de bonus à la fin, bien évidemment, et si vous nous découvrez seulement maintenant, ce n'est pas trop tard pour devenir fan de la cinquième de couvre en écoutant cette émission pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des centaines d'heures déjà en ligne. La cinquième de couvre, c'est le podcast manga hebdo depuis 10 ans maintenant, donc scrollez un peu sur vos apps podcast, bientôt 10 ans. Il y aura forcément une émission pour vous, merci de nous soutenir en écoutant l'émission, et si vous aimez ce qu'on fait, c'est important, laissez des commentaires partout, laissez des notes, partagez l'épisode autour de vous, il n'y a pas de petit partage, tout ce que vous pouvez faire autour de l'émission, ça compte, et même dans la réalité où c'est pas virtuel, où c'est pas un pouce mis, même si vous en parlez à un copain par exemple, ça marche aussi.
Aucune frontière entre le virtuel et le réel.
Exactement.
Mélangeons tout.
Au programme de cette émission, donc, 6 mangas, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler du manga Les Mystères de la Résidence Kaika, nous allons parler Miyazaki Ghibli, vous verrez pourquoi, nous allons parler d'un manga qui s'appelle Salaryman Z, le bureau des morts vivants, nous allons parler de Servin le roi oublié, nous allons parler de Helsing, et on commence, Kanya, avec un manga que tu as adoré qui s'appelle Wild Strawberry.
Oui, un manga que j'ai adoré et un manga que tu m'as rappelé pour le coup, parce que je l'avais vu passer à l'époque, mais je l'avais pas lu. Alors, Wild Strawberry, c'est un manga qui est scénarisé et dessiné par Hiré Yonemoto. C'est édité chez Crunchyroll. Pour le moment, il y a 3 tomes en France, 5 tomes au Japon, et ils viennent d'annoncer d'ailleurs la fin au Japon, donc ça sera 5 ou 6 tomes au total.
C'est pourquoi j'ai pensé à toi quand j'ai vu la couverture de ce manga. Je me suis dit, mais pourquoi il l'a toujours pas lu? Qu'est-ce qu'il fait, Cagnard? C'est le côté fleuri sur le visage.
Le côté floral.
Floral.
Le côté floral de la couverture,
je
évidemment.
Je me suis dit, fraise sauvage, tu vois, fraise sauvage, ça c'est Cagnard, quoi. C'est un fruit des bois, tu vois.
Oui, voilà, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais... Allons-y pour les fruits dans les bois, c'est ça hein, que tu voulais dire.
Oui.
Et alors du coup, c'est vraiment un récit qui m'a pas mal surpris. Disons, l'histoire elle prend place dans un monde où les végétaux ont pris le pouvoir. On est dans un monde civilisé évidemment, hein, mais voilà, il y a eu une attaque. Les végétaux ont pris le pouvoir. Les végétaux sont capables de parasiter les humains, et une fois qu'ils les ont parasités, ça devient quasiment soit des bombes, soit des monstres. Et là, on va suivre Kingo et sa petite sœur qui tentent de survivre dans ce monde qui est plutôt hostile, on va dire.
Mais c'est quoi? C'est genre Tokyo dans 50 ans, quoi, mais qui aurait été parasité?
Bah, en vrai, c'est Tokyo peut-être dans 3 ans, mais où même cette invasion a eu des conséquences économiques et sociales, dans le sens où quand ce virus est arrivé, le gouvernement a fourni des vaccins pour tout le monde.
Ah, mais les gens vivent au quotidien, ils ont...
Les gens vivent au quotidien.
C'est pas un post-apocalyptique avec la moitié de la planète morte, quoi.
Mais disons qu'un vaccin te permet de survivre pendant un moment, sauf que si tu n'as pas de, si tu n'as pas de refill de vaccin, eh ben, il y a des chances que tu deviennes un monstre grâce à ces végétaux. Et c'est là que j'ai trouvé ça plutôt intéressant, parce que, à la base... On va dire que ce qui m'a attiré, c'est vraiment la beauté du trait et le dessin. Parce que depuis ces dernières années, il y a un truc que je découvre sur moi-même. J'aime bien ce mélange où la violence et le gore, bah, elles se mélangent avec une espèce de beauté très poétique, tu vois. Et déjà, de base, faire appel aux végétaux, aux fleurs, aux plantes, ça peut pas être, dans notre imaginaire, on peut pas le voir comme un truc hyper négatif. La seule occurrence qu'on a, on va dire, c'est à peu près les plantes carnivores. Et
Poison Ivy.
C'est Jace et les conquérants de la lumière.
Aussi.
Avec les monstres aux plantes.
Wow, vous avez des références. Je vous parlais de la réalité. Ouais, je pense qu'on a un peu tous été déçus par l'annonce des plantes carnivores quand t'es petit. Et quand tu découvres à quoi ressemble une plante carnivore, t'es là, ouais, c'est un peu...
Elle mange des insectes. Nul,
mais voilà, ça mange des insectes, ça bouge pas des masses et tout.
Et encore, celle que tu peux avoir chez toi, ça mange vraiment des micro-micro-insectes, oui. Vite fait des moucherons, quoi.
Et tu
encore.
Les vois pas manger la plupart du temps. Mais du coup, je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir ce truc qui est très poétique, qui sont les fleurs, et en même temps avoir un récit où ces fleurs et ces plantes vont attaquer les humains, et quand on attaque les humains et qu'en plus elles parasitent les humains, bah, tu sais d'avance que tu vas avoir des paysages, des portraits avec des humains qui explosent à cause des plantes. Et en soi, le titre m'a beaucoup rappelé Full Night chez Glénat, où t'as un peu... même carrément le même genre de pitch, où voilà, t'as vraiment cette notion de la nature qui reprend, pas qui reprend ses droits, qui décide de contre-attaquer contre les humains, en tout cas.
Oui, mais dans Full Night, par contre, c'est un choix. Les humains ont le choix de devenir des plantes pour le bien de la société et pour permettre aux autres humains de continuer à avoir de l'oxygène. Enfin, là, c'est, je veux dire, ça te tombe dessus. C'est une catastrophe,
là, c'est une
en
attaque.
Fait. Ouais,
la
voilà,
la c'est, différence, c'est
y a une
c'est
prédation
vraiment que là...
des plantes en fait, envers les humains. Quoi.
Comme les plantes dans Mario, quoi.
C'est une bonne référence. C'est...
Oui, mais elle te bouffe et c'est terminé. Donc effectivement, c'est peut-être plus les plantes de Mario. Mais en
non,
tout
mais
cas,
oui, quand on parle, ça fait penser aussi à Full Night, évidemment, parce que le côté humain-plante, il n'y a pas eu beaucoup d'occurrences en ce moment.
Moi, je pensais à Hell's Paradise, un peu plus vieux, mais il y avait aussi des très beaux cadavres fleuris comme ça qui faisaient des planches assez gore magnifiques.
Exactement, c'est exactement ça qui m'a attiré à la base, parce que je sens que c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus maintenant, d'avoir ce côté floral et très gothique en même temps et très gore parfois. Et je sais, ce manga m'a fait un peu réaliser que c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup, et ça me donne limite l'impression d'un nouveau genre dans le manga. Alors c'est un genre que je ne peux pas citer à proprement parler, mais c'est un peu discret, je pense, pour le moment, parce que ça vient de un ou quelques titres. Alors oui, Hell's Paradise rentre là-dedans, Full Night rentre là-dedans, et pour le moment, j'appellerais ça un peu comme une sorte d'apocalypse végétale, tu vois. Il y a vraiment ce côté où c'est la nature qui se retourne contre l'être humain. C'est pas la nature qui reprend ses droits. T'as vraiment un côté où t'as l'impression que c'est la nature qui se venge de l'être humain. Et
un peu comme Last of Us aussi, dans ce genre de truc.
Évidemment, ouais, je suis pas assez calé en jeu vidéo et j'ai joué qu'une heure à Last of Us parce que je me suis perdu très rapidement. Mais oui, évidemment, Last of Us est évidemment un très bon exemple de ça. Et je trouve qu'il y a limite, il y a une nouvelle forme d'apocalypse. On a toujours présenté l'apocalypse comme un truc très technologique, l'IA et compagnie. Alors que là, je sens un truc beaucoup plus végétal qui arrive. arrive dans l'édition manga en tout cas.
Et justement, on est dans les mangas de l'imaginaire. Je trouve que t'as un imaginaire qui peut être super fort avec l'apocalypse végétale. J'aime bien, c'est joli comme terme en plus ce que t'as trouvé. Mais ce que je comprends pas après dans ce manga, c'est ils font quoi, Kingo et sa sœur?
Ben en fait, ils essayent de survivre tout simplement parce que, comme je vous ai dit au début, le gouvernement a fourni des vaccins pour tout le monde. Sauf qu'au bout de 5 ans, le vaccin devient payant. Et en fait, si tu n'as pas les moyens...
C'est un abonnement premium.
C'est un abonnement premium des végétaux. Mais si tu n'as plus les moyens de payer ton vaccin, en fait, tu es un petit peu destiné à mourir. Et du coup, tu suis ce frère et sa sœur. La sœur est affectée justement par cette maladie, mais elle n'a pas explosé, elle n'est pas devenue un monstre pour autant. Elle a encore tout son contrôle. Donc, tout le jeu de son frère, c'est d'essayer de la cacher aux autorités, parce qu'évidemment, il y a des autorités qui sont en place pour réguler ça. Et malheureusement, le début du manga commence exactement au moment où les autorités découvrent la sœur de Kingo, découvrent qu'elle est, elle est parasitée déjà. Donc lui, il passe son temps à essayer de dire non, mais il n'y a pas de souci, elle se contrôle et compagnie. Sauf que c'est des militaires du gouvernement. Et donc, on arrive pile au départ du manga. Et c'est ça qui m'a plutôt fasciné parce que c'est un titre qui commence vraiment de manière très poétique, très végétale, comme on l'a dit. Et d'un coup, je vais mettre ça à la moitié du manga. Ça prend un virage très brusque. À la moitié du titre, c'est comme si l'auteur il avait décidé de passer la seconde d'un coup. Et là, on enchaîne sur d'énormes scènes d'action et à très grande échelle. Quand je dis très grande échelle, on parle d'une ville entière. Et les scènes, elles sont parfaitement découpées. Et il y a plein de fois où il y a des tentatives de narration que tu vois pas dans la première partie du manga parce qu'elle est vraiment concentrée sur cet aspect poétique, relation entre le frère et la sœur et compagnie. Et pile à la moitié, tu passes à un manga d'action et il y a vraiment des tentatives de narration qui sont osées, qui sont originales. Et à dire vrai, il y a vraiment des moments où ça m'a rappelé Chainsaw Man dans le sens où... je vais spoiler un petit peu. Très rapidement, le héros récupère les pouvoirs de sa sœur, des pouvoirs qu'il ne contrôle pas.
Parce que du coup, la sœur a des pouvoirs.
La sœur a des pouvoirs, ils se font arrêter par la police végétale, anti-végétale, on va dire.
La VG police.
Et il récupère les pouvoirs de sa sœur. Et à partir de là, je vous jure, le manga devient vraiment... Enfin, évidemment, toutes les scènes d'action, elles sont forcément bordéliques parce qu'on parle de végétaux. Et tout ce qui concerne les végétaux, ça veut dire que ça va éclore. Et donc, tu as des scènes d'action qui sont foutraques parce que le héros ne contrôle pas vraiment ses pouvoirs. Et c'est en ça que ça m'a rappelé Chainsaw Man. Je pense à des massacres. En fait, la deuxième partie du manga m'a beaucoup rappelé le côté massacre de Chainsaw Man au début qui va et qui déchire tout, quoi.
Et alors, dis-moi, est-ce que la manière dont t'en parles, j'ai l'impression de penser à Ajin aussi. Le côté très urbain et bataille urbaine. Parce que c'est pas un road movie, il reste en ville.
Oui, il reste en ville. Alors, Ajin, je l'aurais pas comme ça parce que c'est peut-être le côté un peu négatif que je trouve du manga, c'est que j'ai été surpris par la deuxième moitié pour le côté action, mais en fait cette deuxième moitié, elle amène à un côté un peu standard de narration, on va dire un peu shonen. Il va être récupéré par cette force militaire qui va se dire ça va devenir une arme pour nous, et du coup là on arrive sur un truc qui est un peu basique de il va rejoindre une équipe, enfin c'est Kyle Wade,
oui, le manga est pré-publié sur le Shonen Jump Plus.
Exactement. Je pense pas qu'on puisse le caser en seinen malgré certaines scènes qui sont assez violentes, vraiment d'un point de vue illustration. Mais du coup, voilà, on arrive très rapidement sur ce qu'on connaît beaucoup maintenant. Il intègre une nouvelle équipe. Dans cette équipe, personne ne lui fait confiance. Il va devoir prouver que lui, il est différent et que de toute façon, son objectif, c'est de tuer toutes les plantes. Et là, c'est le côté que je trouve un petit peu dommage et peut-être pas forcément très original. Mais par contre, ce que j'ai pu découvrir en lisant le tome 2 et le tome 3, c'est que l'approche dantesque des combats, elle ne bouge pas. Ça continue et j'étais parti sur un manga un peu comme Full Night en me disant « Ah ouais, c'est beau, c'est poétique, on
un
va
peu
avoir
plus
des... »
intimiste peut-être.
C'est intimiste, on va avoir des relations. Ça parle beaucoup de relations, frères, sœurs, confiance et compagnie. Et en fait, le reste, c'est... C'est pas Sakamoto Days, mais...
On en est pas loin.
Moi, j'ai vu quelques rêves qui y ressemblaient un petit peu, parce qu'on a l'échelle de villes qui sont quasiment abandonnées, et du coup, ça va déchirer des immeubles en deux, et c'est vraiment dantesque. Du coup, j'ai vraiment pris mon pied de fou sur ce manga. À la base, j'y allais vraiment pour le côté « Oh, c'est poétique, il y a des morts et des fleurs et tout, c'est cool », et ce côté est vraiment présent. Mais j'ai vraiment été surpris par les tentatives de narration qu'il y avait sur « On va mettre en scène du beau combat, quoi ».
Je vais citer Cagnard, il y a des morts et des fleurs, c'est cool. Wild Strawberry.
Je crois pas avoir dit ça.
Je viens de dire ça à l'instant. C'est pour ça que j'en rigole. Wild Strawberry, signé Hire Yonemoto, aux éditions Crunchyroll. Merci Cagnard. Maintenant, on va parler d'un manga. On va faire comme si on n'avait jamais entendu parler, Julie. Ça s'appelle Helsing.
Ah oui, ça s'appelle Helsing. Et donc, je vais lire la quatrième de couverture parce que je trouve qu'elle est plutôt bien faite. En Angleterre, l'organisation secrète Helsing agit pour protéger le pays des forces du mal, dont les vampires. Force de frappe de l'église protestante, ce groupe dispose d'une arme secrète des plus inattendues. Alucard, un vampire surpuissant, armé jusqu'aux dents et apparemment invulnérable. Mais leur mission se corsera quand ils devront faire face au Vatican et à ses brigades anti-monstres. Et là, eh ben, c'est une machine à voyager dans le temps, les amis, puisque nous sommes en 1997.
Ouais, enfin, ils ont un peu tout pompé de Wild Strawberry, tu vois, pour le coup. Un vampire qui va combattre des vampires, le mec des plantes qui va combattre les plantes.
Alors, donc oui. Helsing s'est sorti en 1997. Si on compte, ça fait 28 ans.
Eh ouais, ça fait mal. Ça fait un petit peu mal, je t'avoue. Mais j'ai été très très contente, et surtout dès qu'ils ont annoncé que cette édition serait présentée en France, parce que là, je vous parle d'une édition donc perfecte, de luxe, les deux termes ont été utilisés en tout cas sur le site de l'éditeur. Et bah, c'est Kota Hirano, enfin, je veux dire, c'est, je pense que on se rend pas compte maintenant, 28 ans après, à quel point Helsing a marqué son époque. Ça a été une licence, vraiment, ça n'a pas été que un manga, ça a été aussi toute une série d'animations, ça a été une série de 10 OAV. Donc les OAV, pour les plus jeunes d'entre nous, c'était des films, des courts-métrages ou des moyens-métrages en tout cas, qui apportaient d'autres pièces pour comprendre l'univers initialement traité en manga. Et en fait, c'était vraiment une sorte de montée d'adrénaline qui a eu lieu donc dans les années 80, enfin à la fin des années 90 et jusqu'en 2008, en tout cas pour l'apparition du manga, qui a vraiment alimenté, je pense, les premiers fans de manga en France aussi, parce que il y a eu l'animation qui est arrivée relativement vite aussi en Europe, et bah, peut-être que les mangas étaient un peu passés complètement dans l'oubli. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas?
Ben là, il était vraiment question de sous-culture à l'époque, surtout pour un manga comme Helsing qui était violent, japonais, qui représentait tout ce que détestait, on va dire, l'intelligentsia française, tu vois.
Ah bah là, pour le coup, ils étaient bien servis parce que. Alors, il y avait quand même cette aura du mythe de Dracula qui était...
Oui, parce que revenons sur l'histoire un instant.
Oui.
C'est un vampire qui doit se battre contre d'autres vampires?
Oui. Voilà, qui est utilisé comme une arme par donc cette espèce d'organisation secrète mais ultra militarisée qui donc voit non pas comment dire comme le mal ultime, c'est vraiment l'invasion de vampires qui va menacer l'humanité. Et donc Helsing, c'est le nom de cette institution, et ils ont parmi leur rang donc Alucard. Bon, je vous laisse faire la partie de Ouija où tu mets les lettres
Alucard,
dans le bonheur.
Alucard.
Il y a bien. N'oubliez pas, il y a un D à la fin. Hein.
Ouais. Lucard. Ouais. Un fan de cartes. Ouais,
ça doit être ça. Ouais. Et en fait, bon, il y a vraiment ce délire qui était vraiment très présent, je trouve, dans les années 2000, dans les mangas, autour de l'aspect religieux. Combiné avec de la violence, avec vraiment le côté très foutraque, très pulp, de militarisé à fond, quoi. Enfin, parce que c'est ça, c'est vraiment, c'est Dracula, mais version artillerie lourde,
ouais,
avec des tanks et avec.
On parle de l'église.
Et oui, et après, ils se battent contre le Vatican, et puis après, il y a des gens qui viennent et qui veulent réveiller le Troisième Reich grâce à des vampires. Et évidemment, on se dit, waouh, c'est vraiment genre. Enfin, c'est la série Z, quoi. Vraiment.
On continue la mise en situation. C'est quoi, à un moment donné, une fois qu'il se rend compte qu'on l'utilise, etc., Lucard, c'est quoi son objectif après?
Et bien justement, ça c'est un des mystères aussi qu'on aimerait percer, en tout cas parce que Alucard, on sait petit, enfin par bribes, on apprend comment il a été ensuite assujetti finalement à cette fondation Helsing, et il y a vraiment une histoire de la loyauté, de qu'est-ce qui fait qu'il va plutôt préférer aider les humains contre ses semblables, ou en tout cas ces espèces de rejetons, parce que finalement on va comprendre que lui il est vraiment une espèce de vampire ultra vieux, qui est vraiment presque originel, enfin qui est là et qui voit un peu la déliquescence de ce qui est devenu son être à lui, et il y a tout ça qui fait une espèce de gros mélange très très un peu philosophico-bordélique, j'ai envie de dire, parce que il y a toujours ce nappage très comme je disais, pulp, de ça mitraille à tout va, on est vraiment dans, comme tu disais Kenya, de l'ultra-violence, de vraiment de quelque chose de très
on va vers la fin du monde
en fait. Ouais. Il y a vraiment une histoire de on va vers la fin du monde, on va vers des est-ce que le poids du passé va finir finalement par amener la fin pour tout le monde, quoi.
Et il y a un truc où on va au fond des limites aussi, quelque part, tu vois. Moi je sais que Helsing l'est toujours beaucoup rapproché du film Blade. Où il y a, alors Blade c'est un personnage de comics à la base, mais pour moi il y a vraiment un lien qui est très direct, le vampire qui va combattre les vampires, il y a toujours cette notion de qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce qu'être vampire, et Helsing était le meilleur et le pire exemple de ce qu'on pouvait apporter au manga à l'époque, et je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment le récit pulp par excellence, quoi.
On peut pas voir à quoi ça ressemble avec cette nouvelle édition si on la trouve en rayon, en magasin. Graphiquement, c'est comment, Helsing?
Alors, encore une fois, la Time Machine vous emmène très très loin, donc presque 30 ans avant. Et là, on a vraiment une esthétique rétro qui est, moi, je trouve... quand je l'ai redécouverte, je me suis dit, waouh, on vient de loin, tu vois. Parce qu'il y a vraiment ces personnages longilignes, ces noirs et blancs, qui n'ont pas trop d'entre-deux. C'est vraiment très tranché. Même s'il y a des trames, t'as pas l'impression qu'elles soient là pour ajouter des nuances de gris. C'est vraiment très... très très contrasté, quoi. Et c'est marrant parce que actuellement il y a aussi toute une réédition des œuvres du studio Clamp, et on est dans cette espèce de en tout cas les personnages sont vraiment dans une verticalité, il y a pas beaucoup les contrastes sont vraiment très très forts, et je trouve que c'est vraiment quelque chose à regarder avec intérêt, parce que ça a apporté des choses, on se rendait pas compte à l'époque que c'était finalement mal dessiné. Enfin, j'ose le dire, mais il y a des histoires de proportions.
Ça reste toujours très personnel.
Oui, voilà, mais
quand même.
Et quand tu regardes que... maintenant ce qu'on demande à certains auteurs, on se dit, waouh, ça c'était le haut du panier. Et en fait,
Et à l'époque, c'était
la lecture,
norme,
tu sais
quand
aussi
même.
Pourquoi
la norme des animés et compagnie, c'était ça aussi.
Oui. Et en fait, c'est encore une fois une esthétique qui a vraiment fait son temps, qui était vraiment quelque chose qui était, je pense, effectivement, qui est resté longtemps ce que devait être le manga pour les lecteurs des premiers mangas qui ont été importés. T'avais donc Tezuka, la rondeur, le côté cartoon, et à côté, les trucs hyper moderne, hyper actuel, très longiligne, très verticaux.
Très carré.
Avec des compositions qui étaient finalement beaucoup plus... je sais pas comment dire, mais qui essayaient quand même de trouver des nouvelles façons de faire du manga, mais qu'à l'époque, en tout cas, on ne se rendait pas compte de tout ce qu'ils avaient ingurgité avant d'eux-mêmes devenir dessinateurs, quoi.
La réédition de Helsing de Kōta Hirano, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Et la suite, c'est avec une nouvelle sortie en cette rentrée. J'arrête pas de dire que c'est la rentrée alors qu'on arrive
oui,
au mois de novembre.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Je sais pas, j'ai envie que ce soit la rentrée pendant
c'est
les trois derniers mois de
la rentrée.
Exactement. Servin, le roi oublié de Kosuke Hamada. Kosuke Hamada, on a pu le connaître en France avec le manga de badminton Hanebad qui est sorti chez Nueve Graphics, qui est censé ressortir. Et donc, à la base, il avait même fait un manga de basket, cet auteur, dans le Jump. Et ensuite, il est passé au badminton, parce qu'il était fan de badminton. Et alors là, il sort depuis quelques mois maintenant, on est déjà à 6 tomes au Japon, donc quelques années. Servin, le roi oublié, ça sort en France aux éditions Pika. Et au Japon, c'est dans le magazine Big Comic Spirit. Big Comic Spirit, c'est Urasawa, c'est Matsumoto, c'est le magazine sérieux, tu vois, le magazine on déconne pas.
Ouais.
C'est
le
toujours
badminton, non.
Non, ça c'est fini. Il est passé maintenant à du sérieux avec de la fantasy, de la dark fantasy même. C'est toujours en cours au Japon avec 6 tomes publiés. On est dans un monde fantastique avec le roi d'un royaume qui se trouve défait par une armée ennemie. Il rentre au château sauver sa famille et c'est finalement sa fille qui le sauve lui. Mais en échange du pouvoir d'un djinn pour pouvoir le sauver en battant un dragon millénaire, elle donne tous les souvenirs qu'elle a de son père le roi. Et en échange de ses souvenirs, elle obtient le pouvoir du djinn qui lui permet de battre le dragon. À partir de là, on a donc une princesse et un roi en fuite, un duo. Sauf que le roi est d'une part rongé par son échec à défendre son royaume et sa famille. Et d'autre part, il est en compagnie de sa fille qui ne sait plus du tout qui il est. Donc on a une double quête.
Ouais, dis donc, on a déjà vu ça. Non, je sais pas. Le côté personnage qui est devenu amnésique, pas forcément en échange de pouvoir, mais enfin, je pensais à Casca.
Oui, mais là, t'as quasi une double problématique dans le récit, en fait.
Oui, je vois pas. J'ai du mal à faire le lien entre les deux. Si j'y vois pas du tout de Berserk, par exemple. Dedans.
Ok, d'accord.
Peut-être que d'autres en verront, mais alors moi, j'en ai vu. Alors, peut-être une micro-once dans un recoin de page à un endroit. Combien, quoi.
Quelle taille font les épées?
Elles font. Il n'a pas une épée.
Il n'a pas d'épée.
Ah bah, du coup, non.
Voilà.
Non. Il a un hachoir, peut-être?
C'est pas loin du hachoir.
On va attendre le tome 2.
Il y a une technique, il y a un truc. Non, c'est une sorte de hache, ouais. C'est une sorte de hache, mais qui a le même un pouvoir. Et un pouvoir qui est. Alors, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que c'est. On a de la magie, parce qu'il y a un djinn et un dragon, donc forcément il y a de la magie. Mais il explique le pouvoir de son épée de manière technico-pratique. Alors, t'as envie d'y croire ou pas, hein, c'est de la fantasy. Mais c'est marrant, du coup, qu'ils ne mettent pas tout sur le dos de la magie pour pas qu'il ait une puissance non plus incroyable.
Trop fort dès le début.
Et exactement. Alors qu'il est balèze, mais il se fait défoncer, donc bon. Dans tous les cas, c'est assez moderne hein, dans la narration, dans le rythme. Pour une saga de fantasy, je trouve qu'on avance assez vite là où habituellement, alors peut-être parce que j'ai lu Frieren, hein, mais j'ai l'impression qu'on avance assez lentement en général dans la fantasy ces dernières années, enfin dans le manga de fantasy ces dernières années, et là je trouve qu'on va assez vite. Et ça, c'est plutôt un bon plan,
dans quel
un bon
sens,
plan pour moi.
Dans le sens où le principe du manga d'avoir ces deux personnages-là arrive très vite, ou c'est ce qui leur arrive après qui est très rapide?
C'est ce qui arrive après, en fait. Okay. Toute la phase d'exposition, elle est super rapide et on entre tout de suite dans la quête. En fait, c'est même la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que tu arrives, le roi, il est déjà en train de se faire défoncer.
Oui. Ah, c'est bien ça.
On commence comme ça et ensuite tu le suis, t'as l'histoire que je vous ai racontée et une fois que t'arrives au milieu du manga, on fait « Ah, au fait, l'univers, c'est quoi ?» Le concept diplomatique, quelles sont les forces en présence, etc. Donc en fait, t'es déjà piégé puisque t'es déjà dans l'histoire. T'as déjà envie de savoir ce qui va leur arriver à tous les deux. Donc,
et
maintenant,
après, ils élargissent
attaché,
le spectre.
Voilà, exactement.
Ah, et ça, c'est fort.
Ben oui, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Je trouve que c'est dans l'air du temps, ce que ça rappelle à la fois. Alors, c'est dans l'air du temps. Ça me rappelle Game of Thrones, ça me rappelle The Witcher. C'est pas si récent que ça, mais ça reste dans l'air du temps,
dans l'air du temps
malgré tout. Et ouais, franchement, s'il y a moyen que ça vous plaise, si Game of Thrones ou Witcher vous plaisent, alors il n'y a pas pour l'instant de dimension politique, tu vois, que t'as dans Game of Thrones. Il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas ça. On est vraiment sur ces deux personnages, sur ce duo de ce père et cette fille, ce roi et la princesse, avec cette double quête en même temps intime et en même temps héroïque.
Est-ce qu'il y a, par exemple, quand même des références à un certain univers mythologique connu? Enfin, parce que moi, tu me parles d'un père qui part qui est chassé avec sa descendance, qui est sa fille. Ça me fait penser à l'Énéide, tu vois, des choses beaucoup plus anciennes qui sont quand même présentes à travers des mythes qui les font revivre régulièrement, quoi.
Réponse japonaise, j'ai envie de dire qu'il pioche un peu partout, ouais, dans toutes ses influences, ne serait-ce que le mot servin. C'est alors en japonais c'est Re-Servin, Servin le roi oublié. Servin, c'est le nom d'une montagne dans les Alpes, frontière du Valais et du Val d'Aoste. Donc voilà, ça va piocher dans plein de choses, mais j'ai pas vu une source particulière de fantasy ou d'inspiration, en tout cas, et voilà, l'univers est bien amené. On va vite trouver des nouvelles armes, des nouveaux alliés, déclencher un pouvoir caché. Donc, on est dans les étapes d'une quête héroïque, bon, mais on est tout dans du seinen.
Qui sont les traîtres?
Pour l'instant, on ne sait pas encore.
Ah, là, tu m'intéresses.
Pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc, c'est assez... Moi, je me suis bien éclaté à lire Servant le roi oublié. Je n'ai pas levé la tête pendant ma lecture. J'ai enchaîné les pages sans lever la tête et c'était plutôt une bonne nouvelle.
Mais ça, c'est bien pour la nuque. C'est vraiment bien quand on lit.
Mon kiné te remercie. Servant le roi oublié, c'est aux éditions Pika. Et la suite, c'est avec un manga qui s'appelle Salaryman Z, le bureau des morts-vivants. Donc un salaryman et des morts-vivants, Kanya.
Ouais, exactement. Bon, bah évidemment, je vois Salaryman et Z dans le titre. Évidemment, ça m'intéresse. Sous-titre, le bureau des morts-vivants. Alors, c'est scénarisé par Number 8 et c'est dessiné par Ton Ishida. Pour le moment, il y a un tome qui a été publié par Panini. Et sinon, au Japon, ils sont déjà à 5 tomes. Alors, on est sur un pitch qui est plutôt classique. En fait, on est en train de suivre le début d'une invasion zombie en plein Japon. Mais la petite originalité, c'est qu'on va le faire à travers les yeux de Yusaku, qui est le stéréotype du salaryman japonais. En fait, au-delà du stéréotype du salaryman, c'est même THE salaryman. C'est celui qui a voué sa vie entière à l'entreprise. Et même son petit truc, c'est de ne parler qu'en citation de grands entrepreneurs. Alors là, ça a l'air très vague.
Je viens de comprendre que le Z, c'était pour zombie.
Bah, tu sais, quand tu vois Z dans un titre la plupart du temps.
Pardon, Ctrl Z.
Dragon Ball Z.
Soit c'est zombie, soit quitte la palle. Vraiment, quitte la palle tout de suite.
Mais franchement, et ça m'a l'air très, très ironique quand même, comme pitch de départ, comme qu'est-ce qu'il va sortir les maximes là, les citations des grands entrepreneurs face à une armée de zombies.
On ne sort pas les maximes. Hein.
Ah pardon.
Non, ne sortons pas les maximes tout de suite.
Mais ils courent très vite.
Mais par contre, oui, t'as complètement raison. C'est quand même un concept qui est très casse-gueule, quoi. C'est comme si les auteurs, ils avaient décidé de eux-mêmes de retirer tout le côté fun d'une invasion zombie, tu vois. C'est vraiment, venez, on voit à quoi ça ressemble une invasion zombie dans un bureau, quoi. Et même ça, en soi, ça pourrait être un pitch intéressant. Mais eux, ils ont décidé de gérer une apocalypse zombie à hauteur d'une PME moyenne et même d'un point de vue managérial. Alors, pour moi, de ce côté-là, il n'y a rien qui va dans un pitch.
Non, j'arrive même pas à comprendre ce qui se passe dans ce manga. Comment tu crées une PME managériale de zombies? Puisque les zombies, ils veulent te manger. Ils veulent Non?
Bah, on est bien d'accord là-dessus. Tu vois, tu as vraiment déjà de base le monde de l'entreprise qui, pour moi, c'est déjà une jungle en soi. Tu vois, c'est fait de trahison, de survie. Oula. Donc, techniquement, il n'y a même pas besoin d'ajouter l'aspect zombie pour en faire un récit de survie. Et là, en fait, bah, je pense qu'on n'est pas dans un récit de survie, ou alors si c'est un récit de survie, on est dans un récit optimiste de survie, un récit où les gens vont s'aider les uns les autres, et t'as vraiment cette dimension où l'entreprise, dans un milieu catastrophique, peut t'aider à garder justement ce lien qui peut faire que les gens vont survivre. Et je trouve que c'est en ça que le titre est vraiment fort, quoi.
Non, mais c'est une commande.
Vous avez plein de questions à poser.
Une commande du parti politique qui est arrivé au pouvoir là, et qui veut remettre tout le monde au travail au Japon avec la première ministre qui a l'air très, très, comment dire, plus que déterminée, tu vois.
Et métalleuse.
Ah oui, en plus.
Bah, disons que la force du titre, elle vient vraiment de deux aspects. Alors déjà, t'as le côté feel good du récit en pleine apocalypse zombie. Bon, ça on connaît, hein, on peut le rapprocher d'un titre comme Bucket List of the Dead,
qui fait
par exemple.
Énormément penser, les pitchs sont très proches sur le début du pitch.
Et pourtant, les récits sont diamétralement différents. Là où Bucket List of the Last of the Dead se démarque, c'est que ça permet aux héros de faire autre chose que sa vie de zombie d'entreprise et justement de faire tout et tout ce à quoi il rêvait et compagnie.
Ça, c'est dans Bucket List, ouais.
Ça, c'est dans Bucket List. Là, on est dans un récit où le management va t'aider à te sortir du monde de zombies. Et on est d'accord, c'est casse-gueule, ça n'a aucun sens.
Oui, j'arrive pas à...
Mais est-ce que c'est drôle,
dans
au final?
Dans un chapitre, il se passe quoi, en fait?
Alors, c'est pas drôle. Et ce qui se passe dans un chapitre, c'est ce qui pourrait finalement très bien correspondre à un guide d'une entreprise. En cas de tremblement de terre, faites ça. Eh ben en fait, on a exactement ça dans ce manga, c'est-à-dire que le héros Yusaku est tellement dévoué à son entreprise, il l'aime tellement, et c'est pas son entreprise précisément, c'est le monde du travail, et il admire le fait qu'il parle que en citation d'entrepreneurs japonais, donc ils parlent d'entrepreneurs de Sony et compagnie. Souvent, c'est des noms qu'on ne connaît pas pour le coup en public français. Il n'y aura pas de Elon Musk ou autre, comme si ça pouvait être un bon exemple, Elon Musk. Mais voilà, il parle en citation de management, mais on se rend compte que très rapidement, le côté candide de ce personnage, il est assez fascinant parce que en même temps, il est vraiment dans l'idée de l'entreprise peut aider l'humanité et dans le même temps, le mec est pas si bête que ça. Il est pas dans une emprise sectaire de l'entreprise va m'aider dans tous les cas. Il le dit très rapidement dans le récit. Moi-même, je ne sais pas à quoi correspond le travail, en quoi le travail est censé m'aider à m'améliorer. Mais par contre, dans le cadre d'une attaque zombie, eh ben, moi qui déteste tout l'aspect management et compagnie, force est de constater que c'est pas si bête que ça.
Alors, c'est la question que j'allais te poser. Quel effet ça a eu sur toi? Est-ce que ça t'a donné envie d'être manager, d'aller au travail le lendemain? J'en sais rien.
Alors, évidemment, ça m'a donné envie de déchirer le manga. Évidemment, ça m'a... Enfin, je déteste malheureusement, on va dire, le tout ce qui concerne le management en entreprise. Je trouve que c'est une horreur. Je trouve que c'est malheureusement trop souvent donné à des personnes qui n'ont pas été formées là-dedans. Et je suis même pas sûr qu'il y ait une bonne formation à faire là-dedans. Mais là, je trouve qu'ils le font intelligemment. C'est-à-dire que le héros peut être candide à ce niveau-là, mais dans le cas précis d'une invasion zombie, ce qu'on va te demander, c'est d'être ordonné. Le pire des cas, c'est quand tout le monde panique. Et là, justement, tu as ce héros qui va justement gérer et responsabiliser toutes les personnes. Là où on dit c'est chacun pour sa gueule dans la plupart du temps des récits de zombies, lui, justement, il va réussir à donner des missions très précises à des gens qui soient petite ou grande, mais il va responsabiliser tout le monde.
Donc, tu es en train de dire que c'est en gros donc un manuel pour devenir manager, mais caché dans un manga de zombies.
Justement, non.
Il n'y a pas un côté Max Brooks, ce guide de survie en milieu zombie, je ne sais plus
non,
le titre exact.
Pas du tout, parce qu'on n'est on est pas du tout dans un truc absurde qui va se moquer. On n'est pas là-dedans.
En fait, moi, je ne disais pas ça pour se moquer, vraiment premier degré. Genre, si tu veux devenir un bon manager, voici des conseils, sauf que c'est enrobé d'une lecture pop avec des zombies et de rendre le truc un peu plus digeste
qu'un manuel. C'est là que c'est compliqué parce que, oui, c'est un manga qui donne des conseils de management qui, de base, je dirais, sont mauvais dans tous les cas. Tu vois, mais en même temps, il y a vraiment ce truc où, en situation de crise, avoir quelqu'un qui est capable de prendre des décisions rationnelles, c'est hyper intéressant. Maintenant, le manga, il est un peu pollué par toutes ces citations. Enfin, tu vois, moi, tu me donnes des citations du créateur de Sony ou de Panasonic ou autre. ça m'inspire pas plus que ça non plus. Par contre, je trouve ça très malin et très drôle de voir à quel moment ça peut justement être utile, pas en conditions de société, d'entreprise, mais en conditions de survie. Oui, mais en fait, tout ce qu'il fait, il a raison. Il a complètement raison, parce que le pire dans ces cas-là, c'est l'ennui, c'est l'attente. Et lui, en fait, il fait tout pour que, justement, tout le monde se sente utile et qu'il n'y ait pas ces trucs habituels de séries de zombies où chacun va vouloir prendre le pouvoir et compagnie. Et je crois que c'est peut-être un des vrais premiers récits feel-good de zombies que j'ai lu.
Salaryman Z, Le Bureau des Morts-Vivants, c'est aux éditions Panini et c'est déjà sorti. Maintenant, je vous parle de L'Art de Kiki, la petite sorcière. Vous allez me dire, mais c'est un artbook, L'Art de Kiki, la petite sorcière, et il n'y a rien à lire. Vous allez me dire ça, je pense.
Il y a des choses à lire.
Non, vous allez me dire...
Ah, mais il n'y a rien à lire.
C'est un artbook, il n'y a rien à lire. Merci Julie, il faut l'expliquer trois fois.
Pardon, j'étais en train de lire le conducteur.
Mais là, c'est faux, c'est mais... faux, évidemment. Julie, tu le savais déjà. Kiki, c'est dans Kiki, l'art de la... Non, L'Art de Kiki, la petite sorcière, il y a à lire. Je vous remets un petit peu juste le film en tête. On est avec l'histoire de Kiki, elle a 13 ans. C'est un jour important, car toutes les sorcières, ce jour-là, c'est le jour du départ du domicile familial pour elles, pour parfaire leur formation. Alors, à la fin de la journée, elle enfourche son balai et c'est parti pour la découverte du monde. Bon, ça, c'est le film, vous le connaissez sans doute. Et dans ce artbook, il y a beaucoup à lire. Déjà, à la fin, par exemple, il y a l'intégralité du script du film. Rien que ça, déjà.
C'est classe.
Ça, alors, ça, d'une, c'est classe. Vrai. Pour ceux qui sont passionnés par tout ça, c'est très classe. C'est traduit en français. Hein. Il y a aussi une analyse qui est préparée par l'assistant réal du film, celui qui était aux côtés de Miyazaki, Tsunao Katabuchi, et là aussi en fait il y a beaucoup 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 à lire, découverte hein, ou révision de termes de l'animation, canière, un pan, un follow,
il
un
a l'air
il un a overlap
l'air, il a l'air assez libre dans ce qu'il raconte justement.
C'est technique, donc oui.
Oui, c'est. Ouais.
En soi, vu que c'est technique, vu qu'il t'explique ce qu'est un overlap ou une double expo.
Il parle de sa relation avec Miyazaki, du coup, un petit
non.
peu ou... Non, ouais, c'est vraiment technique sur le découpage et compagnie, quoi.
Non, et c'est pas nouveau, en fait, sur les artbooks Miyazaki, le fait qu'il y ait beaucoup à lire. Parce que, par exemple, la semaine dernière, avec Mathieu Bablé, on parlait de Nausicaa de la Vallée du Vent. À la fin du artbook de Nausicaa la Vallée du Vent, alors, il y a pas. Je crois pas qu'il y ait le script du film, mais en revanche, il y a tout un dossier qu'il y avait eu à l'époque dans le magazine japonais Animage qui avait été réalisé par toute l'équipe des studios Ghibli, et c'est aussi super intéressant et relativement libre finalement malgré tout. Mais sinon là en l'occurrence pour Tsunao Katabuchi, c'est très très technique.
Mais à qui tu le conseillerais du coup? Parce que c'est quand même, enfin, il faut avoir une appétence pour l'animation, mais pas seulement pour le côté c'est joli, c'est, il faut s'intéresser au côté technique de ces métiers.
Après, je te cache pas qu'il y a quand même deux tiers du bouquin, c'est des images. Hein.
Oui, c'est vrai.
Avec
des jolies images.
Des très jolies images, puisque c'est Kiki la petite sorcière. Mais oui, les deux tiers du bouquin, ça reste des images, des très belles images. Donc, faut un minimum aimer le concept des artbooks, mais là, il y a quand même un truc en plus, c'est pour ça que j'aime bien aussi les artbooks de Studio Ghibli. Il sort chez Glénat, c'est donc plein d'images. Et c'est pas tout en plus, puisque en bouquin, Glénat a tout sorti en même temps.
Ah, c'est l'intégrale de Kiki, mais en version livre, quoi.
Exactement. Tu as le animé comics de Kiki, la petite sorcière. Alors moi, je déteste les animés comics.
Ce que j'ai... Max, qu'est-ce que tu es en train de nous proposer là?
Qu'est-ce qu'il fait?
Que ça existe. L'animé comics de Kiki la petite sorcière.
J'ai l'impression que le prochain truc, c'est le numéro 1. C'est le bout du balai de Kiki la petite sorcière.
Non, il y a un truc que j'aime bien.
Dans ma truc-esque.
C'est le livre pour enfants Kiki la petite sorcière. Tu sais, c'est vraiment comme les livres pour enfants. T'as une image et le texte à côté.
Ah, ouais. C'est bien ça.
Donc
c'est
voilà, pour lire Kiki la petite sorcière à des enfants.
C'est les albums
le
vraiment à l'ancienne.
Mais ça, en vrai, c'est les albums après avoir regardé le film.
Oui,
pas forcément. Hein.
Oh, vraiment, ça te décevrait pas qu'un enfant découvre Kiki la petite sorcière par le livre?
Non, je connais plein d'enfants autour de moi qui ont découvert tous les Disney par les bouquins. Parce que
tu connais pas d'enfant, Maxime, arrête.
Parce que pas d'écran avant je sais plus quel âge.
Que de révélations ce soir, incroyable.
Cagnard, il n'y a pas d'écran avant un certain âge, donc... Il y a le livre jeunesse, Kiki la petite sorcière.
Non, j'avoue, il est très bien fait. Et limite, je trouve que c'est un peu insultant de dire un anime book là-dessus, tu vois, parce que il est vraiment de très grande qualité. Après, moi, je l'ai jamais vu, Kiki, la petite sorcière.
Ah, bon, bah voilà, t'as un truc à faire à Noël. Voilà.
Mais absolument pas. Mais par contre, pour les parents qui veulent mettre leurs enfants à Miyazaki, je pense que ça, c'est le premier Miyazaki à montrer aux enfants.
Carrément. Et il y a masse d'actu Ghibli en ce moment, notamment à Paris, mais pas que. Il y a une étude. Des chercheurs anglais ont observé les réactions d'un groupe témoin de 500 étudiants. Les jeunes cobayes ont été répartis en 4 échantillons. Ceux qui jouaient à Breath of the Wild, The Legend of Zelda. Ceux qui regardaient régulièrement des longs métrages des studios Ghibli. Ceux qui s'adonnaient aux deux. Et ceux qui n'en pratiquaient aucune. Et les chercheurs ont ensuite soumis les étudiants à un questionnaire psychologique afin de mesurer le niveau de bonheur, de sérénité et de sentiment d'utilité.
Ouh là là.
Résultat. Les gamers et ceux qui regardaient les pépites Ghibli s'estimaient globalement plus joyeux et plus apaisés. Donc, Ghibli fait du bien à vos vies.
Eh ben, dis donc,
et Zelda aussi,
incroyable.
Du coup.
Oui.
Ils l'ont fait
je
avec.
Je sais pas quoi dire après une telle étude, mais oui, enfin après.
Bravo les chercheurs anglais.
Ouais.
Bah, bravo aux chercheurs anglais d'avoir déterminé que regarder du Miyazaki fait du bien. On se posait la question.
Oui, mais
en
même temps, on a des faits objectifs pour le dire, on peut le prouver exactement.
Quand tu regardes Nausicaa, t'es là, bah derrière, tu vas planter des arbres.
Tu vas enterrer des insectes. Allez, hop là. Sinon, jusqu'au 24 janvier, à la Maison de la Culture Japonaise de Paris, exposition dédiée à Isao Takahata, pionnier du dessin animé contemporain de l'après-guerre, au studio Ghibli, une expo qui retrace sa carrière à partir de ses carnets, storyboards, dessins originaux, cellulos, extraits de films, vidéos, etc., etc. Et jusqu'au 4 janvier, il y a l'ouverture d'un pop-up store exceptionnel, une boutique assez unique. On retrouve tous les univers Ghibli au même endroit, mais surtout avec des produits directement importés du Japon, que de l'officiel, que des produits qu'on peut trouver au musée Ghibli au Japon. Il y a même des vinyles, il y a les partitions des musiques,
oh, wow.
des films qu'on peut acheter. Moi, j'ai acheté un verre Porco Rosso, un verre à bière Porco Rosso.
Ah bah non, mais ça...
J'ai mis un PEL dedans, mais j'ai acheté un
combien
verre à bière...
Combien?
Bah, allez, il veut pas le dire.
Je crois qu'on était à plus de 20 euros, le verre.
Oh, wow. Ça va.
Ça, oui, ça va, c'est un verre, quoi. Quoi.
Honnêtement, vu le prix des objets Ghibli dans les magasins de Ghibli au Japon, 20 euros, t'es bien. Hein.
Ouais, alors j'étais peut-être à 25, mais bon, bref.
Bon,
j'ai acheté des... dis pas la vérité.
On lui donne 2 minutes de plus, on est à 100 euros, je pense.
Ça, c'est ce que j'ai lâché dans la boutique. Mais j'ai acheté aussi des baguettes Kiki, la petite sorcière.
C'est ça, il ne nous avait pas tout dit.
7 euros la paire de baguettes. Ça, je ne l'ai pas acheté, mais il y a même des services à vaisselle en porcelaine, fait main, etc. Il y a des peluches de Panda Petit Panda, le court-métrage de Miyazaki et Takahata de 1972. Donc là, on est quand même sur la rêve de rêve. C'était pré-Ghibli en plus, quoi. Donc, super boutique qui est rue de Rivoli à Paris, avec énormément de choses. Mais oui, préparez.
Mais c'est là où il y aura la queue pendant, je sais pas, jusqu'au mois de janvier. Ça va déborder, non?
Et d'ailleurs, que ça soit donc l'expo Takahata, la Maison de la Culture Japonaise de Paris, c'est jusqu'au 24 janvier et la boutique, c'est jusqu'au 4 janvier. Donc, même avec les étrennes de Noël, tu peux claquer, quoi.
Mais toi, Maxime, c'est quoi ton rapport avec Kiki, la petite sorcière, genre dans l'œuvre de Miyazaki et tout? C'est un titre que t'adores, c'est un titre que...
C'est un des titres les plus frais, je dirais. Avec c'est pas le titre qui me met dans le bad ou qui va me faire réfléchir, c'est vraiment un titre...
Ah, c'est feel good. Hein,
ouais, vraiment, exactement. Ouais.
Et puis c'est vraiment un coming of age, enfin, alors qu'elle a que 13 ans, mais il y a plein de petites choses qui se passent et qui vont la faire grandir, qui vont lui faire prendre conscience de certaines réalités du monde dans lequel elle va vivre après. Et enfin, moi, c'est un de mes préférés aussi. Enfin,
après, je l'avais posé la question à Maxime.
Oui, pardon.
Mais
je vais prendre
ta réponse.
Mais je vais lui donner la parole dans un instant pour nous parler des mystères de la résidence Keika, mais donc l'art de Kiki, la petite sorcière, et puis le livre jeunesse, et puis... L'anime
bah, l'intégrale, quoi.
C'est sorti aux éditions Glénat.
Mais là, Maxime, c'est Altaïa, là. Il y a le manga, le livre.
Mais non, parce qu'ils n'ont pas les droits, justement.
Mais fais un coffret. Fais un coffret et revends-le.
Pourquoi?
Pourquoi?
Bah non, mais là, il y a un kit.
Mais non, il va mettre à côté de sa bière, à côté de ses baguettes, et puis ce sera
pas... Ah oui, là, non, mais je vais vraiment utiliser mon verre à bière. Je vais juste pas le mettre au lave-vaisselle.
Ah oui.
Ça, c'est ce qui va le plus...
Il y a un joli dessin.
J'ai demandé quand même, il passe au lave-vaisselle, on m'a fait une drôle de grimace, j'ai fait...
Alors, ouais. On
je l'achète
pas.
Quand même.
Tu verras.
Parlons maintenant du manga Les Mystères de la Résidence Kaika aux éditions Vega.
Oui, alors c'est alors on ne sait pas, c'est un auteur, une autrice qui s'appelle Ameishi et qui donc publie ses mangas et ses illustrations sur internet. Et depuis 2022, donc il y a cette série. Donc au Japon, il y a déjà 3 tomes et en France, on a le tome 2 qui va sortir début novembre. Donc ce sont des séries d'histoires un peu courtes, mais avec les mêmes personnages qui évoluent au sein donc de cette mystérieuse résidence Kaika.
Et qu'est-ce qu'elle a de mystérieuse ?
Alors, effectivement, qu'est-ce qu'elle a de mystérieuse ? C'est une bonne question. Puisque donc, on est dans le Tokyo des années 20-30. L'éditeur précise que c'est la fin de l'époque Taisho. Donc, Taisho, c'est 1912 à 1926. Et donc, on suit l'arrivée donc, de Fuji, un traducteur, dans cette élégante résidence Kaika, qui est un fleuron de l'architecture moderne. Il y a des salons, il y a une espèce de restaurant à l'entrée, mais il y a également des habitations. Et il va y rencontrer donc un détective et son jeune assistant qui ont une certitude que tous les habitants de cette résidence ont des secrets, ont des choses à cacher et qu'il y a parfois donc des choses un peu inexpliquées qui vont se passer dans cette résidence.
C'est ça que j'allais te demander, c'est des secrets genre magiques ou genre meurtriers ou genre magico-meurtriers ?
C'est peut-être un peu magico-meurtrier. Donc c'est le début du téléphone, on a une espèce d'opératrice à la voix un peu ensorcelante qui est censée donc pousser les gens au crime. T'as ce traducteur qui a des relations un peu compliquées avec son maître et on sait pas, au fur et à mesure on comprend que voilà, il essaye de faire un trait sur son passé. Il y a des jumelles qui arrivent et est-ce qu'on en voit deux, est-ce qu'on en voit une, laquelle est la vraie? C'est toujours un peu étrange comme ça de croiser des gens dans cette espèce de résidence, mais de devoir tirer un peu des fils pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces personnages. Et moi, je trouve que c'est surtout un titre hyper élégant, vraiment à l'image en fait de cette époque très très idéalisée, je pense, en tout cas maintenant, de la modernité. Vraiment le moment où le Japon va se doter de vrais grands immeubles en pierre, de rues avec des pavés, des voitures, des téléphones, des personnes qui dans la rue vont déambuler soit habillées à l'occidental, soit habillées avec des kimonos. Et donc il y a vraiment cette recherche de cette ambiance des années 20, des années 30, avant ce que moi j'appellerais la grande catastrophe, quoi, qui est vraiment la montée de l'impérialisme, même si c'est déjà très présent. En fait, là, on est vraiment dans cette bulle de la résidence, d'un Tokyo très, très élégant, très sophistiqué. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de références aussi à une sorte de maniérisme qui convoque des classiques de la littérature moderne, donc Edogawa Lampo, Tanizaki, Motojiro Kaji. Donc c'est pas forcément tous des personnes, enfin des auteurs qui vont travailler le fantastique ou la SF, mais Edogawa Lampo, il est surtout connu pour être le père du policier moderne au Japon. Et je pense que ce qui m'a fait vraiment tiquer, c'est que pour être un bon policier, il faut pouvoir imaginer des choses, imaginer des situations qui sont improbables, se dire est-ce que ce personnage-là est capable de commettre tel crime, par quels moyens, et de vraiment faire fonctionner toute une...
mécanisme...
Ouais, des rouages, et petit à petit, tu vas arriver vers une vérité qui sera tangible ou pas.
Étonnante, de toute façon, sinon ça ne surprend pas le lecteur, on va dire.
C'est marrant, parce que quand je t'écoute, j'essaie de projeter, d'imaginer à quoi ça peut ressembler. J'imagine un mélange entre Agatha Christie en épisode court avec les contes de la crypte.
Alors, c'est pas très gore ou très sanglant, mais il y a vraiment une espèce de... je dirais une réalité cotonneuse. C'est ça aussi pour moi, qui fait appel à l'imaginaire, c'est que on sait jamais en fait sur quelle réalité on s'appuie, ou en tout cas les personnages s'appuient, et est-ce que vraiment ils vont basculer dans des choses complètement inexplicables, presque, tu vois, les mener vers la folie ou une certaine folie, ou au contraire être sur des choses très tangibles et dire ok, en fait ça s'explique, il y a des choses qui sont pas du tout comment dire, hors de portée, quoi. Donc en tout cas, enfin, c'est vraiment très intéressant, parce que à nouveau je pense que tout ce qui est Taisho et cette c'est vraiment une période étrange pour beaucoup de Japonais, je pense, jeunes maintenant, parce qu'ils se rendent compte aussi de tout ce qui a eu lieu dans, au courant de 2-3 décennies, de abandonner des vieilles coutumes ou des rituels ou des croyances pour vraiment se dire, et en tout cas faire paraître aux yeux du monde entier, que le Japon était une notion occidentale, moderne, ou quelque chose de beaucoup plus comment dire, proche de la science, enfin, et c'est ça participe en fait de cet élan là, quoi.
Les mystères de la résidence Kaika aux éditions Vega Dupuis. Pour terminer cette émission, on va mettre en vrac quelques mangas qu'on a lus, vus, dont on a déjà parlé, pas encore. Il y a Human Animal qui est sorti, si tu veux en dire un mot, Cagnard.
Le traumatisme du week-end.
Un petit traumatisme en même temps, un manga qui pousse au véganisme, un manga qui est hyper intéressant dans le sens où il va vous mener dans vos recoins. Donc lisez ça, c'est intéressant à lire. Je peux pas dire.
Promise Neverland dérangé.
J'ai pas réussi à dire si c'est bien ou si c'est mal. C'est intéressant à lire, tout simplement.
Il y a Mujina qui est sorti. On a eu beaucoup de retours. C'est vraiment magnifique ce manga. Donc je voulais juste rappeler que le nouveau manga de Asano, mais avec de l'action dedans, qui s'appelle Mujina, est disponible en librairie. Il y a Princesse Saphir qui revient au début du mois de novembre.
Ça, c'est cool.
Ouais, ça c'était un des Tezuka qu'on attendait de voir revenir pour ceux qui ne réussissaient pas à trouver la précédente édition. On a aussi, et alors là je pense que ça va te faire rire, Kenya, Valkyrie Apocalypse, l'affaire Jack l'Éventreur qui sort. C'est un spin-off de Valkyrie Bagarre.
Ça me fait pas rire du tout, Maxime, c'est une vraie affaire ça.
C'est une vraie affaire.
C'est
une vraie affaire. Juste le concept de Valkyrie Apocalypse, c'est donc
Valkyrie Bagarre.
C'est donc un combat des humains contre les dieux dans une espèce de tournoi. Voilà. Et donc du coup là, le représentant des humains,
c'est Jack l'Éventreur.
Jack l'Éventreur, mais alors c'est plus compliqué que ça. Mais oui, c'est Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, représentant de l'humanité.
Oui. Ça doit lui faire bizarre. Ouais. Hein.
Un mot aussi pour dire que Chainsaw Man ressort en édition, en nouvelle édition, chez Crunchyroll. Et en fait, ça m'a fait rire parce que cette semaine, je l'ai vu en librairie. J'ai vu des gens en train d'essayer d'expliquer ce qu'est Chainsaw Man et, entre eux. Et donc,
c'est un
voilà.
Exercice intéressant, ça.
Ouais, un petit peu, ouais. Donc voilà, c'est terminé pour cette émission consacrée à notre petite sélection des mangas de l'imaginaire. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous récapitule un peu quels étaient les mangas. Il y avait donc à l'instant Les Mystères de la Résidence Kaika. Il y avait L'Art de Kiki, la petite sorcière. Ça, c'était du artbook. On avait Salaryman Z, Le Bureau des Morts-Vivants. Servin, Le Roi Oublié. Helsing de Kotai Rano. La réédition Wild Strawberry aux éditions Crunchyroll. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, c'est presque... Oh, c'est pas en repos, puisqu'on vous aurait une émission, mais ce sera une émission avec vous, donc c'est vous qui allez bosser, puisqu'il y aura une libre antenne. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous n'oubliez pas la petite étoile, le petit commentaire, le petit partage de l'émission. C'est toujours très sympa. Merci à tous de nous avoir écoutés, et donc à la semaine prochaine pour la libre antenne.
Merci.
Salut.